le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine citoyen consacré évidemment à la rentrée scolaire. C'est maintenant dans moins une semaine. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement, et du vice-recteur Didier Vindatige. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les effectifs, les conditions de sécurité, le soutien de l'État, les objectifs pédagogiques, nous allons essayer de passer en revue les grands enjeux de cette rentrée 2025. Mais avant cela, un petit retour quand même sur 2024 qui a été une année tout à fait particulière, monsieur le vice-recteur. Et il y a une satisfaction quand même, c'est que les résultats aux examens de fin d'année, malgré une année perturbée, ont été bons. On peut dire ça comme ça ?
Absolument. Je pense que l'année, de ce point de vue-là, a mieux fini qu'elle n'avait commencé, puisque et c'est ça, la chose importante à retenir de l'année 2024, c'est qu'on est parvenu à diplômer les élèves méritants qui ont travaillé tout au long de l'année. Et on leur a permis ainsi de poursuivre leur parcours scolaire, et voire universitaire, pour ceux d'entre eux qui faisaient des études supérieures. Donc on a des résultats qui sont satisfaisants, qui sont comparables à ceux des académies comparables, qui ne sont comparables aussi à des performances qui avaient été atteintes d'autres années, notamment en 2021, lorsque c'était le Covid. Et bon, seules les performances au CAP ont baissé, ce qui me laisse penser qu'effectivement, il y a une frange de la population scolaire qui n'est pas revenue, et sur laquelle, évidemment, on va concentrer nos efforts cette année. Mais pour ce qui concerne le bac pro, par exemple, je vous avais dit, je pense à la même époque, sur cette antenne, qu'on pouvait augmenter de 5 points de pourcentage le taux de réussite au bac pro si les filles et les garçons inscrits en terminale continuaient tout au long de l'année jusqu'à se présenter aux épreuves. C'est ce qui s'est passé. Et donc, on est passé de 68%, par exemple, à 75% de taux de réussite au bac. Encore des efforts à faire, mais la performance est satisfaisante.
Donc les résultats étaient au rendez-vous de cette année 2024, oui. Très, très particulière. On va parler maintenant de la rentrée 2025. Vous l'avez dit, il y a peut-être eu des élèves qui ont échappé quand même à la fin d'année scolaire. Donc on aimerait faire un point sur les effectifs, Isabelle Champmoreau, pour savoir aujourd'hui combien d'enfants sont scolarisés. Est-ce que vous avez les chiffres ? Alors on sait bien qu'il y aura sans doute des ajustements encore dans les jours qui viennent, mais par rapport aux années précédentes, où est-ce qu'on en est ?
Eh bien, je voudrais saluer les auditrices et les auditeurs. Et puis avant de débuter cette intervention, je voudrais remercier également nos équipes, puisqu'une rentrée, ça se prépare dès la fin de l'année précédente. Et comme d'habitude, tout le monde a été sur le pont, et notamment pour des travaux, je pense qu'on y reviendra, qui se sont faits pendant les vacances. Donc on a cette année un nombre d'élèves attendu qui est de, alors, très précisément 62 660 élèves, avec une différence quand même par rapport à 2023 de près de 2000 élèves. Alors on constate qu'il y a une forte baisse globalement de nos effectifs. Elle a été enclenchée en 2012. Alors c'est un mélange, hein, c'est un mélange de deux raisons. C'est un mélange d'une baisse démographique, puisque la Nouvelle-Calédonie, bon, les femmes ont de moins en moins d'enfants comme dans d'autres pays dans le monde. Mais il y a aussi bien sûr la cause des départs. Et donc ça s'est vraiment conforté depuis mai 2024, malheureusement. C'est important de le dire parce que, par exemple, depuis 2012, nous avons moins 3000 élèves dans le premier degré, dans le primaire, et on en attend moins 2000 d'ici 2030. Alors 2030, c'est demain. Ce qui fait, je pense qu'on pourra également le réévoquer, qu'il y a beaucoup de places disponibles, notamment dans nos collèges, dans le secondaire, et ce qui nous obligera à revoir notre carte scolaire également.
Alors sur ces effectifs, Didier Vindatige, on a beaucoup entendu parler de mouvements de population entre le Nord, le Sud, les îles. Est-ce que vous avez pu affiner un peu les choses ? Et est-ce qu'effectivement, vous avez noté qu'il y avait des choses qui avaient bougé ?
Alors, il y a eu un certain nombre de migrations à l'intérieur, oui, internes, en effet, qu'on évalue aujourd'hui à 1000, à peu près, un mouvement sur la Grande Terre vers les îles. On a vu que très vite, les mouvements s'étaient stabilisés, donc on a des chiffres au mois de décembre qui montraient qu'effectivement, il y avait des populations qui tendaient à se resédentariser, notamment dans les îles. C'est pour ça qu'on a ouvert des classes, notamment au lycée de Lifou, et également sur les collèges de la côte Est. On a ouvert des classes, notamment à Canela aussi. Donc aujourd'hui, les effectifs sont stabilisés, mais évidemment, c'est dans ces prochains jours qu'on va voir s'il y a encore des petites variations infinitésimales. Et ensuite, évidemment, il y a eu quelques départs, qu'on évalue aujourd'hui à 1000, c'est le chiffre dont je voulais parler tout à l'heure. Et donc, on gère un mouvement démographique structurel de repli démographique et qui a été accentué quand même par cet aspect-là.
Alors, repli démographique, on a bien compris qu'il y avait des mouvements de population, il y a eu des départs, il y a eu aussi évidemment les événements qu'on a connus à partir du mois de mai. Tout ça, ça doit avoir des conséquences sur l'organisation territoriale, les établissements scolaires, l'ouverture, la fermeture des classes, la réduction de l'activité dans certains établissements scolaires. C'est un jonglage qu'il a fallu faire assez précisément, Isabelle Chambereau.
Oui, alors on avait déjà pris des dispositions importantes l'année dernière et ça me parlait de parler de la reconstruction également des établissements, puisque particulièrement pour la Nouvelle-Calédonie, nous avons le lycée Petro Atiti qui a quasiment été entièrement détruit. Donc l'année dernière, on avait déjà pris des dispositions pour redispatcher des élèves dans d'autres lycées.
Avec la décision de ne plus le reconstruire, hein.
Alors, quand nous sommes allés sur site, honnêtement, on a subi un très grand choc, hein. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu des collèges de la province sud qui ont été partiellement saccagés, d'où la fermeture de Rivière-Salée. Les communes ont été fortement impactées sur Nouméa et sur Dimbéa avec des écoles qui sont détruites. La bonne nouvelle, j'ai participé au séminaire économique qui a eu lieu ce week-end, c'est que l'État, par la voix de ministre, a confirmé l'enveloppe dédiée à la reconstruction avec 100% de prise en charge pour nos établissements. Donc sur la carte scolaire, il y a eu des mouvements classiques et puis il y a eu une confortation de ce qu'on a vu l'année dernière pour dispatcher les élèves. Et sur Petro Atiti, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que cette année, on va pouvoir réouvrir des ateliers et donc réaccueillir aussi sur site un certain nombre d'élèves. Je voudrais quand même dire de manière générale que grâce à l'intervention de l'État, que ce soit en masse salariale, mais aussi en crédit de reconstruction, l'enseignement, notamment l'enseignement secondaire en Nouvelle-Calédonie, est quand même un secteur qui est relativement épargné sur le plan des financements grâce à l'action de l'État.
On va revenir là-dessus. L'autre question qui se pose, donc, on a bien compris qu'il y avait suffisamment d'établissements scolaires et de classes pour accueillir l'ensemble des élèves. L'autre côté, monsieur le vice-recteur, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'enseignants et de directeurs d'établissements ? Parce que là aussi, certains ont exprimé une inquiétude en disant ils ne vont plus revenir, ils ne vont plus vouloir venir enseigner en Calédonie.
Oui, alors tout à fait. Il n'y a eu aucune fuite de nos enseignants dans les semaines qui ont suivi la crise. Et puis le mouvement des enseignants auxquels nous nous sommes livrés là, en septembre-octobre montre que les enseignants que l'on attendait en Nouvelle-Calédonie sont arrivés. Bon, nous avons également, le mois dernier d'ailleurs, recruté la prochaine vague de chefs d'établissement qui prendra ses fonctions au 1er août prochain. Donc on peut considérer effectivement qu'aujourd'hui, on aborde une rentrée avec, on a dit des mouvements d'élèves, mais des mouvements d'élèves dont il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur.
Oui, et qui sont maîtrisés en plus.
Oui, qui sont maîtrisés. Anticiper quand on le rapporte au volume total de population. Donc on a aujourd'hui des élèves qui sont accueillis dans des locaux et dans des classes devant lesquelles il y a des professeurs. Donc effectivement, on aborde la rentrée avec, enthousiasme.
Alors, l'autre point qui suscite de l'interrogation, c'est les conditions dans lesquelles cette rentrée 2025 va se dérouler. On parlera évidemment de la reconstruction des établissements scolaires, du soutien financier de l'État dans un instant. Isabelle Chambereau, mais il y a les conditions de sécurité aujourd'hui. Est-ce que vous avez travaillé pour faire en sorte que cette rentrée 2025 se passe dans les meilleures conditions, notamment là où certaines populations peuvent avoir des inquiétudes ?
Oui, alors vous avez raison, c'est un point important. Déjà l'année dernière, on avait mis comme condition essentielle de la réouverture des établissements scolaires un environnement de sécurité maximale. Donc on avait fait un gros travail déjà avec les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie, la police nationale, et vraiment je salue le travail qui a été fait sous l'égide du haut commissaire pour réouvrir nos établissements. On l'a fait de manière progressive, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Donc cette année, nous avons eu une réunion il y a à peu près une semaine, également au commissariat avec les forces de police, les communes, les provinces, et nous avons travaillé sur une cartographie précise, particulièrement dans l'agglomération, pour identifier les zones qu'on pourrait considérer comme sensibles. Alors, je résumerai en disant qu'on n'a pas d'alerte particulière de gravité d'événements qui pourraient se produire à la rentrée. On a simplement, comme de manière générale, sur tous les sujets et tous les périmètres, une vigilance. Et je voudrais vraiment rassurer les parents, car nous avons travaillé ensemble sur le primaire et sur le secondaire. Il y aura à la fois des patrouilles qui circuleront dans les quartiers, comme ça se fait à toutes les rentrées. Il y aura dans certains endroits des policiers ou des gendarmes qui seront en statique. Et nous avons aussi partagé tous les contacts de nos personnels dans les établissements scolaires, à la fin qu'ils puissent signaler, s'ils en sentent le besoin, le moindre fait. Voilà. Mais on est serein sur cette rentrée. On n'est jamais à l'abri d'un acte isolé, mais je voudrais vraiment dire aux familles qu'il y a une préparation spécifique, sans entrer dans une psychose particulière, et qu'il y a une vigilance et qu'elle s'est prise en compte.
On peut imaginer, monsieur le vice-recteur, que la communauté des enseignants était mobilisée et sensibilisée à ce point-là.
Totalement mobilisée, avec évidemment l'ensemble des chefs d'établissement. Je voudrais aussi redire effectivement que nous avons profité, je dirais, de cette crise pour consolider nos relations avec nos partenaires institutionnels de la police ou de la gendarmerie, et que c'est un pan d'une action importante visant à garantir aux parents un contexte scolaire apaisé. Il y a cet aspect-là. Deuxième aspect, c'est le climat scolaire, on va dire, d'une façon plus générale, la prévention des violences, la prévention, par exemple, du harcèlement, dont on parle moins, mais qui demeure une priorité, notamment aussi pour cette année scolaire.
Alors est-ce que c'est un des objectifs pédagogiques de l'année ?
C'est un objectif de prise en charge de nos élèves dans les classes, parce qu'on se dit que si les élèves sont bien, ils vont mieux apprendre. Donc effectivement, l'année dernière, nous avions annoncé l'année dernière qu'en 2024, nous aurions 100% avec les 100% d'établissements dotés d'un protocole de lutte contre le harcèlement. Bon, évidemment, ce plan-là a pris un peu de retard, mais nous relançons la machine de sorte que à la fin de l'année 2025, 100% des établissements publics seront dotés d'un programme, d'un protocole de lutte contre le harcèlement dans les établissements.
Alors il y a un autre point sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années, c'est celui du décrochage scolaire. Vous nous l'avez dit, en 2024, il y a sans doute eu un certain nombre d'élèves qui n'ont pas terminé l'année, donc on peut considérer en décrochage scolaire. Là aussi, c'est un point particulier, vous allez être très vigilant. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ?
Il y a d'autres dossiers qui sont prioritaires, mais effectivement, pour nous, la lutte contre le décrochage, pour être franc avec vous, ça reste pour nous un domaine dans lequel on peut encore progresser, en effet. Dans notamment le dénombrement de ces élèves concernés, et puis par le traitement qu'on peut leur réserver. Alors, on avance souvent un chiffre qui est un peu erroné, de 1000 aussi, pour le coup. Je pense que le nombre de véritables décrocheurs est inférieur, de l'ordre de 400 ou 500, ça reste un chiffre trop important. Et donc, il faut absolument qu'on continue de lutter contre le décrochage. Et notamment, une des pistes, je dirais, les plus sérieuses, c'est pour nous la rénovation de la carte des formations professionnelles, de façon à ce que les jeunes trouvent des formations, je dirais, d'une part à leur goût, et qui leur garantissent derrière une insertion professionnelle.
Il y a d'autres objectifs fixés pour cette année 2025 ?
Alors, la lutte contre le harcèlement, c'en est un. Deuxième priorité, c'est naturellement de continuer à lutter contre des inégalités territoriales qui persistent. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, sur le territoire de Wailou, par exemple, on va installer un territoire éducatif rural, que les collèges qui ont besoin d'être aidés, on signera avec eux des contrats locaux d'accompagnement qui nous permet de faire, vis-à-vis de ces collèges, des offres supplémentaires de façon à améliorer le parcours des élèves. Il y a le travail sur la carte scolaire. Et quand on dit carte scolaire, il y a aussi l'aspect langue, où il se trouve que, comme on disait à l'instant, l'État nous aide beaucoup par les fonds publics qu'il nous a promis. L'État nous aide aussi par la mise à disposition d'une expertise. Et en l'occurrence, nous avons plusieurs inspecteurs généraux qui vont venir sur le territoire cette année, notamment en anglais et en langue en général. Et donc, on va pouvoir stabiliser une carte des langues qui garantissent davantage de continuité des parcours et qui garantissent aussi de la diversité linguistique.
Alors à propos de carte scolaire, Isabelle Chambourg, une petite précision, parce qu'on a parlé des effectifs, on sait qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, notamment en province sud, qui a changé les règles d'attribution des établissements quand il y avait des dérogations. On a entendu dire qu'il y avait des centaines d'élèves qui n'étaient pas affectés dans les classes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez eu des informations sur ce sujet ?
Alors nous, on a fait nous-mêmes déjà ce travail pour le secondaire. On peut dire que grâce au travail de nos équipes et de notre service, il n'y a aucun élève du secondaire qui n'a pas d'affectation pour la rentrée. Ça se passe bien sûr en plusieurs vagues. Et on a fait un point avec les provinces et notamment la province sud. Donc on a eu une réunion sur ces sujets hier. Et on est à peu près... Donc les derniers chiffres, c'est qu'il y a 14 élèves, 14 dossiers qui restent en instance. Donc on n'a évidemment pas des centaines d'élèves qui sont concernés. Ce sont des dossiers qui sont incomplets. À mon avis, ça va se résoudre assez facilement. Je voudrais quand même rappeler aux personnes qui diffusent ces fausses informations que la problématique, c'est que plusieurs écoles ont été détruites, notamment, je le disais, sur la ville de Nouméa et la ville de Dimbéa. Les élèves, c'est surtout des problèmes de réaffectation. Donc il faut dire qu'il y a un travail énorme qui a été fait entre les communes et la province sud pour trouver une place à chacun. Par exemple, la presqu'île de Ducos avec plusieurs écoles brûlées. Évidemment, on ne peut pas rentrer quatre écoles dans une école de la presqu'île. Donc il y a des élèves qui partent vers Mauravel, par exemple, ou dans d'autres quartiers. Et c'est tout ce travail qui a été fait depuis l'année dernière. Donc facilement, on peut dire que tout élève qui habite en province sud trouvera dans sa commune une place à l'école. De la même manière, ça me permet aussi de parler d'autres sujets qui font l'actualité, mais je voudrais aussi rassurer les familles, car sur la question de l'allocation de rentrée, alors évidemment, il y a des compléments qui sont faits par les provinces, mais en fait, l'allocation de rentrée, elle est versée par la CAFAT.
Donc, on en parlait ce matin avec le président Jean-Pierre Cabard.
Voilà, donc il l'a confirmé. Donc il y a une allocation de rentrée pour les salariés, une autre allocation qui est celle de solidarité, et on a travaillé avec la CAFAT parce qu'on a consulté le gouvernement sur le sujet, et c'est le même montant qui est préservé que celui qui a été versé aux familles en 2024.
Mais il y aura peut-être plus de demandes.
Il y aura peut-être plus de demandes. Mais enfin, je voudrais vraiment rassurer, il y a un mélange un petit peu des genres sur ce sujet, comme l'aide à la cantine, qui sera maintenue, mais on demande une petite participation aux familles parce qu'on n'arrive plus à équilibrer sur le coût des repas, en tout cas sur le primaire.
Puisqu'on parle de ces aspects qui sont très importants, évidemment, pour la rentrée scolaire, un mot sur le transport scolaire, parce qu'on sait que le réseau Taneo a été profondément bouleversé, qu'il a mis comme une de ses priorités, justement, de desservir au mieux les établissements scolaires. Est-ce que vous pensez que la mise en œuvre du nouveau réseau Taneo répond peut-être aux attentes des élèves et de leurs familles ?
Oui, alors je voudrais dire aussi qu'on était très inquiets depuis l'année dernière, parce qu'il y avait quand même aussi la possibilité qu'il n'y ait pas de transport à la rentrée 2025, ce qui aurait été vraiment une catastrophe à la fois pour les salariés, les travailleurs et nos étudiants. Donc sur ce point-là, évidemment, on n'est pas sur l'optimisation du réseau habituel, mais on a des lignes qui desservent. Et je sais que le SMTU a une attention particulière à regarder la cartographie de nos établissements pour voir comment on dessert les lycées, les collèges notamment. Ça a été fait. Il y a un petit peu moins de fréquence, donc nous, on sera vigilants aussi sur les élèves peut-être qui sortiront plus tôt, qui n'auront pas forcément le bus qui arrivera à l'heure précise comme sur les années précédentes. Mais nous, on est plutôt rassurés sur ce point-là. Et sur la question du transport scolaire, il faut qu'on lance un travail qui est beaucoup plus global. Donc il s'agit des compétences de la Nouvelle-Calédonie et du secteur de mon collègue Gilbert Huillenon. Mais moi, je veux aussi travailler sur ce sujet. Je veux que nos élèves soient servis en termes de transport scolaire. Et je voudrais dire que sur le Nord, on a fait un effort particulier, puisque la province Nord, pour des raisons budgétaires, s'est désengagée aussi du transport des internes. Et c'est la Nouvelle-Calédonie qui a pris le relais pour les mois à venir, ce qui va nous permettre de voir un petit peu les choses venir. Je profite qu'on parle un petit peu des choses pratiques pour finir sur ce sujet, en disant qu'au niveau de la Nouvelle-Calédonie, on a plusieurs collèges et lycées qui sont concernés sur les frais de cantine et d'internat. C'est quand même 27 établissements. Et dans notre budget, on va prévoir une subvention à ces établissements pour qu'il n'y ait pas d'augmentation des tarifs d'internat et de cantine. Je voudrais quand même dire que le repas qui est pris dans nos établissements scolaires, pour le vice-recteur et moi, c'est vraiment une priorité que les enfants aient ce repas le midi et qu'on n'augmente pas ces tarifs pour les parents, pour les familles.
Vous attendez sur ces sujets-là un soutien financier de l'État particulier ?
Ben écoutez, je dirais que ce n'est pas sur ce sujet en particulier, mais ce qu'on a discuté au séminaire samedi, il y a deux volets. Il y a l'investissement qui va nous permettre, communes, provinces et Nouvelle-Calédonie, de
on
faire les
revenir,
travaux
ouais.
Attendus. Mais il y a aussi le fonctionnement, c'est-à-dire que de manière globale, ce qui est attendu, qui a été voté dans la loi de finances, c'est que l'enveloppe qui va être versée à la Nouvelle-Calédonie va nous permettre tout simplement d'abonder à la fois le budget de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi celui des provinces et des communes par la loi par l'objet de la répartition de ces recettes. Quand on voit qu'il y a des provinces et des communes qui ont moins 30% de recettes fiscales, il faut absolument que ce fonctionnement soit compensé pour qu'on puisse faire face justement à nos missions.
Didier Van Attiche, c'est évidemment, on est là dans l'organisation autour de l'école, on n'est pas sur la pédagogie. Ceci dit, ce sont des questions importantes pour que les scolarités se passent le plus sereinement possible, toutes ces questions à la fois de transport, de cantine, voire de pouvoir d'achat pour les familles.
Elles sont évidemment décisive, parce que l'école ne fonctionne pas tout seul en vase clos. Et naturellement, l'école doit travailler avec des partenaires qui ont des compétences qui sont les leurs, et grâce auxquelles, si elles sont bien exercées, si elles ont les moyens d'être exercées, ces compétences permettent de garantir aux familles des parcours scolaires à leurs enfants satisfaisants. Donc, il est évident que, par exemple, il y a eu un très gros travail qui a été conduit aussi par les équipes du vice-rectorat pour repositionner les élèves de Rivière-Salée sur Porte-de-Fer, comme vous savez. Donc, c'est un établissement qui voit ses effectifs grossir en termes d'effectifs élèves, en termes d'effectifs professeurs. Et donc, on va bien regarder comment ces deux cultures, en quelque sorte professionnelles, se mélangent pour offrir aux familles des parcours scolaires satisfaisants. Un gros travail également, évidemment, qui a été fait sur Petro-Atiti. Je pense que mes équipes ont travaillé, responsables notamment des travaux, tout le mois de décembre et le mois de janvier, hein, pour qu'on puisse garantir aux élèves du lycée Petro-Atiti la réutilisation, notamment de certains espaces, les fameux plateaux techniques, pour mener des formations professionnelles du lycée Petro-Atiti.
Alors 2025, cette rentrée est donc prête, dans les meilleures conditions possibles par rapport évidemment à tout ce que la Calédonie a traversé en 2024. 2025, Isabelle Chamorro, ça va être aussi l'année de la reconstruction des établissements scolaires détruits. Comment vous allez faire, avec quels moyens, et est-ce qu'il peut y avoir des changements d'implantation ou des adaptations qui sont rendues nécessaires, notamment par l'évolution démographique, etc., etc.
Alors, moi, je parlerai plus particulièrement du lycée Petro-Atiti, puisque c'est le lycée qui a subi le plus de dégradations au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on est très satisfait d'entendre que la reconstruction générale sur le primaire et le secondaire va être prise à 100% par l'État, puisque clairement, nous n'avons pas les moyens, dans les délais impartis, de le faire seul. Il peut y avoir, et c'est une opportunité, je dirais, de revoir les cartes de formation, comme le disait monsieur le vice-recteur, pour mieux coller peut-être aux attentes. Il y a eu plusieurs réunions avec les acteurs économiques également, par nos services, pour mieux coller aux attentes de cette période de reconstruction, répondre aux besoins des entreprises, etc., et mieux former nos jeunes aux attentes du marché. Après, je ne veux pas parler à la place des provinces et des communes, mais je sais que, comme ça a été aussi une ouverture qui est faite par l'État, c'est que les maires vont pouvoir aussi réfléchir à l'aménagement propre de leur commune en fonction des effectifs, en fonction de l'évolution démographique des quartiers, pour reconstruire leurs écoles, mais aussi réfléchir à de nouveaux projets qui seraient plus adaptés à la vie de leur commune.
Et quand on parle reconstruction, évidemment, on vise la rentrée 2026 ou la rentrée 2027 ?
Eh bien, écoutez, on est déjà, nous, par exemple, sur 2027, avec des reconstructions progressives. C'est-à-dire que c'est un peu spécifique, le secteur scolaire. Alors, il y a des difficultés quand on construit un musée, quand on fait une route. Voilà, mais on n'ouvre pas une école en juillet. Donc, nous, dès qu'il faut qu'on ait rapidement de l'État, on a l'assurance des crédits. Maintenant, il faut qu'on ait rapidement un calendrier pour positionner nos équipes sur les travaux, parce qu'à chaque fois qu'on décale de quelques mois, ben nous, ça peut nous décaler rapidement d'une année. C'est ce qui est spécifique à notre secteur. Mais enfin, on a déjà cette garantie. Honnêtement, on l'attendait, cette confirmation. On sait ce qu'il y a eu comme problème de report des budgets en métropole. Honnêtement, déjà, c'est une étape importante pour nous d'avoir cette assurance.
Un mot sur ce sujet, monsieur le vice-recteur.
C'est un sujet évidemment très important. Il faut que chacun ait bien à l'esprit que, compte tenu du contexte démographique, qui est celui qu'on connaît, des capacités financières des uns et des autres, il faut bien que les structures scolaires soient parfaitement ajustées aux besoins scolaires. Et donc, il se peut qu'il y ait des zones infraterritoriales dans lesquelles les capacités d'accueil excèdent le besoin scolaire. Si on veut un enseignement de qualité, il faut procéder à ce genre d'ajustement. Et ça peut se traduire évidemment par une évolution des structures.
Alors encore quelques sujets à aborder dans cette émission consacrée à la rentrée scolaire 2025, notamment Isabelle Chamorro, le soutien à l'enseignement privé. Hein, on sait les difficultés rencontrées par l'enseignement privé, les engagements qui ont été pris avec un mode de financement assuré. On sait aussi que les collectivités, malheureusement, n'ont plus les ressources financières prévues telles que c'était au moment du vote de ces projets de loi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que le soutien à l'enseignement privé se poursuit ? De quelle façon ? Et est-ce qu'il peut y avoir des inquiétudes pour l'enseignement privé ?
Alors, je dirais que c'est...
On parle principalement de la DEC et de la FELP, on est bien d'accord. Hein, parce que l'ASE, c'est des établissements qui sont gérés maintenant directement en lien avec le gouvernement.
Non, je dirais que la problématique, elle est pour l'enseignement privé de manière globale. On a encore des difficultés sur la question de l'ASE, qu'il y a des réformes structurelles en matière financière à opérer. Alors déjà, le soutien à l'enseignement privé, c'est une de nos priorités hein, depuis les années précédentes et qui va se marquer également en 2025. Le sujet de la baisse des effectifs, elle est aussi sur l'enseignement privé. Et d'ailleurs, elle est plus importante en général que ce qu'on constate dans le public. Donc, ça met aussi en difficulté les établissements. Nous, on a prévu à notre budget, on est contraint, mais de renouveler notre soutien à la Nouvelle-Calédonie sur les lycées. Les provinces vont se positionner sur les collèges. Et c'est vrai que la difficulté, elle est pour les mairies qui n'ont pas forcément les crédits suffisants, les recettes suffisantes pour alimenter la partie du primaire. Donc, on va avoir encore des réunions cette année pour en discuter, mais je dirais que la réforme de la carte scolaire, elle ne se regarde pas que d'un côté le public, de l'autre côté le privé, c'est-à-dire que nos réunions, elles doivent être mutualisées, et là où il y a des baisses des effectifs, on l'a déjà fait, on peut fermer du public pour laisser du privé ouvert, on peut fermer du privé pour laisser du public ouvert, et ça c'est province par province, qu'il faut qu'on regarde les choses, mais ce sera aussi au regard des effectifs scolaires.
Réflexion donc en cours. Quelques projets pour cette année 2025, parce qu'il faut évidemment aller de l'avant et regarder un peu plus loin que la rentrée de la semaine prochaine, lundi, où les choses, on l'imagine, sont déjà bien posées, quasiment en place. Vous envisagez, Isabelle Chamorro, de mettre en place une journée de l'école. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors on a plusieurs projets. Ça concerne... c'est un projet qui est en cours de construction, parce que moi, j'aime pas trop imposer des projets. Donc, c'est une idée que j'ai soumise à nos équipes dans le primaire, d'avoir une journée de l'école qui se tiendrait fin 2025. Ce que je leur ai demandé, c'est de travailler sur un événement qui a une vocation, enfin un événement fédérateur, je dirais même festif, qui nous permettrait aussi de renouer des liens et donc de montrer que par les enfants, on a ce lien de cohésion, de fraternité. Je pense que tout le monde a été très marqué par ce qui s'est passé l'année dernière, et je pense que ce type d'événement positif ne peut nous faire du bien de manière générale aux familles et aux équipes. Et il est en cours d'élaboration, puisque j'ai demandé à nos équipes, notamment nos inspecteurs, de réfléchir avec les équipes de manière globale pour construire ce projet.
Vous êtes partie prenante, évidemment, du côté du vice-rectorat ?
Bien entendu. Moi, ma première priorité, ce sera de faire en sorte que les élèves méritants qui travaillent tout au long de l'année correctement obtiennent leur diplôme en 2025 pour prolonger, évidemment, leur parcours scolaire et universitaire. Naturellement, l'école a été très affectée, et donc, d'ailleurs, avec Madame Chamorro, on avait animé en fin d'année dernière un premier séminaire qui va déboucher sur un comité de pilotage qui va nous conduire à réfléchir aux évolutions qui seraient nécessaires pour bien ajuster le système éducatif local aux besoins de la population. Donc, évidemment, ça va nous occuper une grande partie de l'année 2025.
Et parmi les projets, Isabelle Chamorro, il y a aussi une expérimentation sur l'utilisation du téléphone portable. C'est un vaste sujet. On sait qu'il y a des expérimentations déjà menées en métropole. Est-ce que vous allez tenter des choses ici en Calédonie pour éviter que le téléphone portable n'envahisse les salles de cours ?
Alors, de manière très claire, je ne dirais pas qu'il envahit les salles de cours. Et moi, je trouve que les écrans, parce que j'ai d'autres secteurs à ma charge, comme par exemple la politique des 1000 premiers jours, je trouve que les écrans envahissent de manière générale la vie de nos enfants et bien trop tôt dans leur parcours scolaire, avec des conséquences négatives. On peut en les utiliser comme outil pédagogique quand c'est encadré, avec un taux d'exposition également qui peut être encadré. Mais on a vraiment la volonté d'alerter les familles sur ces usages. On a déjà des règlements intérieurs qui prévoient que le téléphone portable n'est pas utilisé pendant le temps de classe, etc. Mais là, avec des établissements volontaires qui ont déjà pris d'ailleurs certains des initiatives, on souhaite expérimenter cette année un encadrement plus important de cette pratique. Je sais que certains ont déjà, je l'ai vu dans les établissements de l'enseignement privé, des petites boîtes à l'entrée des classes dans lesquelles on dépose son téléphone. Donc, il y a des pour, il y a des contre. Et moi, j'aimerais qu'on passe par des établissements volontaires, parce que je sais que quand les équipes ont envie de mener ce genre d'expérimentation, ça donne vraiment des aspects positifs. Mais voilà, je voudrais vraiment le voir de manière beaucoup plus globale pour les enfants avant l'école et pendant le temps scolaire.
Et peut-être sensibiliser les parents aussi ?
Oui, alors ce qui était ressorti, monsieur le vice-recteur faisait référence au premier séminaire. Alors là, on était dans le cadre, vous savez, du plan de reconstruction, etc. Nous, on va poursuivre cette démarche. Et ce qui était ressorti également, c'est la volonté des fédérations de parents d'élèves d'être plus associées au temps de formation. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des formations, des sensibilisations, mais de construire cette année, donc là, ce sera effectif plutôt en 2026, construire cette année des modules de formation avec deux axes, à la fois mieux connaître l'institution scolaire, mieux s'approprier la question des programmes, des évaluations, comprendre le parcours de son enfant. Puis après, la question de la parentalité, c'est-à-dire la gestion des conflits, la bienveillance, etc. Et donc, on voudrait travailler sur ce sujet cette année pour encadrer et un peu plus officialiser cette partie auprès des parents pour leur permettre, quand ils sont fragilisés par rapport à leur rapport à l'école, de mieux accompagner leurs enfants. Mmh.
Monsieur le vice-recteur, on est donc à l'aube d'une nouvelle année scolaire. Hein. Ça commence lundi pour la quasi-majorité des élèves en Nouvelle-Calédonie, de la maternelle jusqu'en terminale. C'est une année marquée par aucune réforme particulière. On est sur le même standard que l'an dernier.
En effet, vous avez certainement entendu parler dans l'actualité de la métropole des changements, mais qui, en fait, n'interviennent qu'en septembre 2025 en métropole. C'est-à-dire que chez nous, ce sera donc l'année prochaine, notamment des choses qui affecteront le DNB. Bon, il y a des projets qui ont été abandonnés. Bon, on se mettra à jour pour aborder la rentrée 2026. Là, 2025, effectivement, il y a des ajustements de programme. Mais il n'y a rien de fondamentalement significatif, effectivement.
Notamment pour le bac, hein, qui reste sur le format qu'on en a connu l'an dernier.
Retrouve le bac, et puis surtout, on retrouve un contrôle...
Continu.
Mais non, justement. Il y a une part de contrôle continu. Mais on abandonne le procédé de cette année, qui était le contrôle continu intégral. Je dis ça pour les parents qui nous écoutent, évidemment. On retrouve les épreuves écrites sur table. Pour les épreuves du bac et du DNB, d'ailleurs.
Allez, à quelques jours de cette rentrée, est-ce que vous auriez un message à adresser à la fois aux élèves et aussi à la communauté éducative ?
Moi, je remercie toutes les... Oh, pardonnez-moi.
Allez-y.
Les forces vives, je dirais, de la communauté éducative qui avait fait preuve de tant de résilience en 2024. Et je suis persuadé qu'effectivement, aujourd'hui, toutes ces forces vives sont prêtes à réattaquer l'année scolaire 2025. Et donc... Je leur exprime ma reconnaissance et ma confiance, en fait.
Isabelle Chambreau.
Bien écoutez, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui nous est arrivé l'année dernière et en tirer des enseignements et continuer à condamner cette violence. Mais je pense qu'il faut se projeter maintenant sur l'avenir. On voit que des discussions se réamorcent au niveau général sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et puis moi, je me dis, alors il y en a qui ont moins envie de retourner à l'école après les vacances, ça c'est sûr. Mais la rentrée scolaire, moi j'ai envie de me dire que ça reste un moment heureux, ça reste un moment important. Je vois les familles qui font leurs achats, etc. C'est un moment qui reste fédérateur et j'ai envie de faire confiance à nos équipes et à nos enfants, souvent qui nous donnent de bonnes leçons de vie. Et donc je suis sûre que c'est une rentrée qui se passera dans de bonnes conditions tout en restant vigilant. C'est la spécificité cette année à la prise en charge sociale qui peut mettre en difficulté certaines familles.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ce magazine citoyen pour faire un point complet sur cette rentrée 2025. C'est une émission évidemment qui sera disponible en réécoute dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Bon après-midi à tous.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.